dimanche, RVE, il est 9h.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'infos sportives tout au long de cette matinée entre 9h et 11h. Vous aurez Tribune Sport 9h, 10h et vous aurez Tribune Foot 10h, 11h. On a retrouvé nos studios ce matin puisqu'on vous avait fait vivre la semaine dernière au cœur de l'événement les Masters de tennis organisé par le Tennis Club de Rambouillet. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette week-end de tennis, sur cette belle manifestation pour le tennis sur Rambouillet. On reviendra aussi sur les événements sportifs vécus le week-end dernier, à savoir le Paris Tour cycliste et puis la randonnée cycliste donc Rambouillet-Zafra avec nos amis du CTR. Et puis ce matin, on va, et ça sera le menu essentiel de cette émission Tribune Sport, parler pratiquement que de pétanque et rien que de pétanque avec nos invités qu'on a eu l'occasion de côtoyer durant le dernier week-end du mois d'août à l'occasion des championnats de France de pétanque organisés à l'hippodrome de Rambouillet. Ça avait connu un très 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 grand succès. On avait promis donc de les avoir à ce micro. On a tenu parole, on est ravis de les avoir ce matin. Madame Chantal Pateau en personne. Bonjour Madame Pateau. Ça va ? Ça reste un souvenir inoubliable, ces championnats de France ?
Un très bon souvenir, oui. Très bon souvenir.
Oui, c'est vrai. Alors, on parlera un peu comment on en arrive à organiser des championnats de France de pétanque sur Rambouillet. Monsieur Magrino, bonjour.
Bonjour.
Venu en voisin de Montfort-l'Amaury.
Oui.
Président du comité régional, c'est ça ?
Non, départemental.
D'accord. FFST. Régional, ça viendra un peu plus tard. Oui. Très bien. Monsieur Granger, qui est lui venu du département voisin de l'Essonne. Bonjour.
Bonjour.
Hein, Longjumeau, c'est pas très loin.
Oui, c'est pas très loin, effectivement.
Très bien. Et puis Félix. C'est
oui,
Félix
bonjour.
Le chat, non, c'est ça ?
Bonjour.
Très bien. Alors, à tour de rôle, très brièvement, la pétanque, monsieur Magrino, pourquoi et comment c'est arrivé, cette passion pour la pétanque ? Comment on en arrive à prendre des responsabilités comme vous, à devenir président du comité départemental ?
La pétanque, je pense qu'on tombe dedans quand on est jeune. Ouais. C'est vrai qu'ils sont à voir, à première vue, c'est un sport qui ne nécessite pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'applications au début. Dès qu'on commence à se plonger dedans, on mord dedans et donc on s'y prend au jeu. Et au fur et à mesure que les choses se passent, je pense qu'on prend des responsabilités parce qu'il y en a d'autres qui arrêtent, parce qu'on a envie que ça fonctionne, parce que tout un tas de phénomènes qui font que c'est
ça comme ça. Ça commence comment ? En vacances et puis après ça devient beaucoup plus sérieux ?
Non ? Des fois, oui. des fois c'est les vacances, des fois c'est je vous dis, on a un groupe d'amis qui se met à jouer à la pétanque et puis parmi eux, il y en a peut-être un qui connaît un petit peu, qui explique un peu les règles et on s'y prend au jeu facilement. Faut essayer.
Et on va voir que quand c'est pratiqué en compétition, c'est un véritable sport. Hein. C'est comme tous les sports. Hein. La semaine dernière, on parlait de badminton. Quand c'est sur la plage, c'est autre chose. Quand c'est de la compétition, ça devient complètement différent. Hein.
Ah oui, la compétition c'est quand même quelque chose de... il faut de la concentration, du calme, et encore une fois de la convivialité puisqu'ils sont en contact avec des gens et c'est pas des coups de poing, c'est pas de la boxe, donc il faut que ça reste amical. Je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Voilà. Chantal, vous, la passion de la pétanque, c'est venu comment ?
Moi, c'est plus le côté organisation, parce que je ne joue pas, moi. J'ai un époux qui joue à la pétanque depuis très longtemps, c'est une histoire de famille.
Voilà, c'est ça.
Et puis la convivialité, l'amitié.
Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes vers la pétanque, beaucoup de femmes jouaient à la pétanque.
De plus en plus de femmes.
Ouais, on l'a vu au championnat de France,
on va en parler, et
tout âge confondu. Hein.
Tout âge confondu, c'est vrai.
Très bien, monsieur Granger.
Mais moi, c'est surtout... du point de vue filiation, puisque dès l'âge de 12 ans, j'ai pris ma première licence à cet âge-là. Tout ça parce que j'avais mon père qui était trésorier d'un club. Ma mère travaillait les week-ends, puisqu'elle travaillait, elle était dans un centre hospitalier. Ce qui fait que le week-end, on était souvent avec le père et que, il nous emmenait sur les terrains de boules et on a commencé à jouer. J'ai un frère qui avait 18 mois de moins que moi. Très facile à se retrouver dedans, quoi.
Voilà. Très bien. Félix, la passion de la pétanque, comment c'est arrivé ? Pareil, même chose ?
Par filiation ? Oui, la passion de la pétanque, c'est un sport, d'ailleurs.
Oui.
Et d'une.
Oui.
Se retrouver sur des terrains de pétanque, retrouver les amis, passer des après-midi agréables, toujours agréables. Et comme disait M. Antoine, pas de bagarre.
Bien sûr. Hein ?
tant que possible. Donc, je trouve que c'est bien. C'est un sport qui devrait continuer, mais toujours dans...
Avec le même état d'esprit. Quoi.
Voilà.
Très bien. Eh bien, on va justement mieux le pénétrer, ce sport. En attendant, on va savoir s'il va faire beau aujourd'hui du côté de la météo. On va voir un peu de pub, et puis on retrouvera ensuite les pronostics de notre pronostiqueur épique maison, Boris. Il y a des courses aujourd'hui, et je suppose que Boris aura une petite pensée pour Maurice Bernardet, qui nous a quittés donc hier, et qui était la voix des courses sur l'antenne d'RTL. On y va.
Le rendez-vous des pronostics hippiques avec Boris.
Bonjour Boris.
Bonjour à tous.
Et nous revoici en ce dimanche pour parler des courses et du quintet.
Voilà, les courses du jour, comme je vous l'ai dit hier. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve à Longchamp. C'est le prix Europe 1, c'est une course de plat, 2000 mètres. Donc pour cet événement du jour, j'ai choisi en première position Bérénice Pancrizia, le numéro 11. Ce protégé de Myriam Bollack-Badel sera monté par son fils Alexis. Il devrait se plaire sur ce parcours où la corde finalement importe peu. Revenu au mieux, comme l'atteste sa dernière troisième place, ceci lui confère à mon avis une première chance. Qui plus est, cette année, il a du mal à gagner sa course, donc je pense que ça pourrait être une bonne surprise. Donc le 11, Bérénice Pancrizia. Ensuite, en deuxième position, numéro 13, Heavenly Light, cheval irlandais entraîné par Eric Libaud pour l'écurie Luc, qui se distingue aussi à l'attelée, hein, joué d'une musique plus que parfaite. Il s'adapte à tout type de configuration. Confié à Yoris Mendizabal, qui est quand même une des plus fines cravaches de plat, qui a d'ailleurs remporté un grand nombre de groupes cette année, devrait figurer vraisemblablement très haut dans le classement. Donc en deuxième position, le numéro 13, Heavenly Light. En troisième position, et vous verrez que la troisième position et quatrième, ce sont un petit peu des surprises, le numéro 2, Wesley Lucky. C'est un cheval très chargé en poids, parce qu'il y a près de 60 kilos, 59,5, monté par Olivier Pellier, donc là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est à mon avis le cheval de classe du lot. Il a une carrière un petit peu en dents de scie depuis quelques temps, mais je pense qu'il devrait rapidement courir des lots un peu supérieurs. Néanmoins, sera-t-il assez prêt? On va parier sur sa bonne forme. Donc le numéro 2 en troisième position, Wheezy Will Lucky. Et puis pour terminer, pour pimenter un petit peu les rapports, j'ai choisi le 18 Vasselitsa, ou Vasselitsa, ça dépend comment on le prononce. C'est une surprise possible à 51 kilos, c'est un peu un coup de poker. Il avait d'autres ambitions dernièrement dans des lots plus modestes. Il est un petit peu mal placé au niveau de l'échelle des valeurs, mais néanmoins, avec ce poids, il devrait pouvoir figurer comme une surprise possible à grosse cote. Donc j'ai choisi pour compléter la base quintée le numéro 18 Vasselitsa. Voilà, donc en résumé de cette base quintée plus du jour, le numéro 11, le 13, le 2, le 18, et puis pour allonger le tir derrière, le 14, le 17, le 5, le 4, hélas.
Très bien, les chevaux du jour.
Donc on change pas une formule qui gagne, on va garder le 11. Bérénice Pancrizia, parce que le week-end dernier ça s'est plutôt bien passé. On avait donné 3 des 4 chevaux du jour, donc on va dire que c'est plutôt pas mal.
C'est très bien. Même.
Voilà, on va essayer de rester sur ce rythme. Donc on va garder Bérénice Pancrizia, le numéro 11 de cette course de Quintet Plus. Donc dans la première réunion, le numéro 11. Et puis on va voyager ensuite sur Strasbourg. On va choisir dans la deuxième réunion le 417 Ker Pellois. C'est un cheval qui, de par son numéro, est engagé au plafond des gains. Ce protégé de Benjamin Goetz semble véritablement préparé pour cet événement. Et comme son entraîneur est plutôt adroit dans le choix de ses engagements, je pense que ça lui confère vraiment une première chance là-dedans, dans le lot du jour. Donc en deuxième réunion, le 417 Ker Pellois. Donc dans la première réunion, le numéro 11, le 111, Bérénice Pancrizia. Et dans la deuxième réunion, le 417, Ker Pellois.
Eh bien, tout est noté. Et puis, on te retrouve donc à partir de lundi matin.
Voilà, comme tous les jours.
Comme tous les jours.
Le pronostic que Raphaël ne manquera pas de vous donner à l'antenne. Et puis, on se revoit le week-end prochain pour le pronostic.
Le week-end prochain.
Voilà.
À bientôt. Merci Boris.
Au revoir.
Le rendez-vous des pronostics hippiques avec Boris.
Oui, les rendez-vous donc sont pris, hein, les pronostics de Boris tout au long de la semaine, et puis on le retrouvera naturellement le week-end prochain dans cette émission Trimille Sport, soit à 9h10, soit à 10h10, en fonction donc des circonstances. Alors j'avais quelques résultats à vous donner, hein, sur ce qu'on vous a fait vivre la semaine dernière. On va d'abord dire que les héros sont revenus sur Rambouillet, les 14 cyclistes qui ont donc parcouru donc la liaison Rambouillet-Zafra via Hendaye, eh bien ont regagné Rambouillet cette semaine. On avait pu avoir Jacques Baquet la semaine dernière qui nous avait parlé de leur expédition par téléphone. On a eu aussi, on va rappeler que notre ami Jean-Michel Bourgard avait couvert le Paris Tour cycliste, gagné par donc le Belge Gilbert de la Française des Jeux. Et puis on leur avait promis, hein, de donner les noms de tous ceux qui ont remporté la semaine dernière les finales des Masters jeunes organisées par le Tennis Club de Rambouillet et le Perret en Yvelines. Il y avait des finales effectivement à la fois et au Perret et donc à Rambouillet. Donc chez les filles de 9 ans, c'est la victoire de Teana Pavi du Tennis Club de Rambouillet. 9 ans garçon, victoire de Luca Chimento du TC Coignières. Pour les filles de 10 ans, c'est Sarah Simon de Dourdan qui s'impose. Et pour les garçons, donc 10 ans, même catégorie d'âge, c'est Lorraine Sassio Roche de Chevreuse qui l'emporte. Ensuite, dans la catégorie des 11 et 12 ans filles, Inès Drillon du Tennis Club de Rambouillet gagne. Et chez les garçons, donc victoire de Romain Lahaye de l'US Saint-Arnoux. Dans la catégorie des 13 et 14 ans, chez les filles, victoire de Anne-Laure Scordia du Tennis Club de la Clairière sur Rambouillet. Et chez les garçons, victoire de Jérémy Houroux de Saint-Arnoux. Et puis pour la catégorie 15 et 16 ans filles, victoire de Cassandre Mater de Orsay. Vous voyez, donc on est venu de très loin participer donc à ces Masters de tennis. Et en 15-16 ans garçons, victoire de Romain Chiomento des Essarts le Roi. On va rappeler donc 364 joueurs et joueuses, 267 garçons et 97 filles ont participé donc à toutes ces différentes compétitions du Masters organisées durant toute l'année, hein, par quatre clubs, Ablis, Saint-Arnoux, La Clairière et Rambouillet, pardon, pas La Clairière, mais le Tennis Club de Rambouillet et donc le club du Perret en Yvelines, et que 61 clubs ont été représentés et 597 matchs joués. Et le Tennis Club de Rambouillet remporte d'ailleurs le challenge par équipe avec 1027 points devant La Clairière 515 points et l'US Saint-Arnoux 271 points. Et puis aujourd'hui c'est la dernière journée des trophées de tennis donc Herve, avec notamment des matchs du côté de La Clairière. Voilà donc et puis la remise des récompenses la semaine prochaine dans cette émission à partir de 9h. Alors monsieur Magrino, que s'est-il passé pour la pétanque, pour votre sport depuis ces championnats de France fin août sur Rambouillet?
Déjà en premier temps, tous les week-ends, tous les samedis, dimanches, nous avons des compétitions, aussi bien au niveau départemental que régional. Il y a eu depuis les deux championnats régionaux, tête à tête et triplette. Et je pense que Monsieur Granger, à côté de moi, il peut vous donner les résultats plus sûrs que moi.
Les résultats, je ne sais pas, mais je peux vous dire où ça a été organisé. C'est clair. On a eu Anthony tout d'abord deux fois, je crois. Le deuxième week-end de septembre, c'est-à-dire le 14, 15 ou 13, 14, je sais 13, plus. 14, ouais. 13, 14, ça devait être ça. Et puis on a eu ensuite Lys, dans l'Essonne. Oui.
Près de Corbeil, là-bas.
Près Évry, ouais. Ouais. Là, c'était le championnat triplette senior et c'était donc le 28 septembre. Ensuite, il y a eu le dernier championnat de France qu'il y a eu, c'était donc le 5 octobre à Antony également. Championnat tête senior et doublette féminin. Et d'ailleurs, dans ce championnat doublette féminin, il est à signaler quand même une équipe finaliste de Rambouillet.
Ah oui.
Voilà, battue par une équipe essonienne, mais c'est le mérite d'être signalé. L'équipe essonienne était de Forges-les-Bains.
D'accord, donc effectivement, alors ça tombe très bien parce que Forges-les-Bains, vous y êtes ce week-end, hein.
Oui.
Il y a un grand week-end de pétanque. Hein,
oui, tout à fait. Non, un grand week-end, c'est plutôt quelque chose de très convivial parce que depuis, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on essaie, nous, au niveau du comité de l'Essonne, d'organiser le concours des dirigeants. Autrement dit, c'est leur fête. C'est-à-dire c'est un concours où il n'y a pas d'équipe formée, chaque dirigeant vient, bien entendu, on a les listes des bureaux de tous les clubs, voire du comité, et on fait un concours, ce qu'on appelle mêlé-mêlé, c'est-à-dire que quelqu'un d'Orsay peut jouer avec quelqu'un de Longjumeau, ou etc.
Et c'est par tirage au sort
Et alors c'est sur le nombre de parties gagnées, le résultat, avec le goal-average qui intervient dans une deuxième phase. Et puis une fois qu'on a fini tout ça, il y a forcément un classement, mais c'est pas là l'essentiel. Une fois fini tout cela, on termine tous autour d'une table avec bien un sûr. Repas partagé en commun. Et j'entendais parler tout à l'heure convivialité. Pour ce qui me concerne, nous sommes des fervents de ce genre de choses.
Oui, voilà. C'est une des particularités de la pétanque. Et ça, vous y tenez. C'est un peu comme les troisième mi-temps pour le rugby. Bah là, il y a ce côté convivial de la pétanque. Ça peut être un véritable sport, et puis on peut aussi prendre du plaisir et s'amuser.
D'accord.
Tout à fait. Oui. Bah c'est encore une fois, je pense que le but de la pétanque, c'était un peu dans cet esprit-là. C'est une bande de copains et d'amis qui s'affrontent entre guillemets à une compétition. Bon, la compétition par elle-même, c'est quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Mais sinon, à côté, il n'y a pas d'enjeu. On peut se permettre de faire une partie de pétanque sans que, ne serait-ce que pour l'apéro, puisque dans le temps, c'est vrai qu'on était renommés pour être surtout des gens
cette
d'apéro.
Cette image du pastis.
Voilà. Donc, ouais. C'est quelque chose de vraiment. Convivial quoi à la base et les choses font que bah nous qui on s'occupe de tout ça on essaie de sauvegarder cet état d'esprit.
Alors vous êtes sous l'égide de la Fédération française de sport travailliste hein, c'est ça hein.
Oui, tout à fait.
Pourquoi? C'est une fédération dissidente de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, c'est complémentaire, ça se passe comment?
Non, la Fédération française du sport travailliste elle a été créée en 1939. Mm-hmm. Pour justement faire pratiquer le sport à plusieurs niveaux, puisque dans le temps, il n'y avait que du sport pour les gens qui étaient assez aisés. Mmh. Donc ils ont sorti ça pour que ça soit ouvert à tous les ouvriers et autres. Et la FFST, ça dit bien un sport travailliste, ça veut dire on est multisport. Mmh. Donc dans notre fédération, on recense une quarantaine de disciplines sportives. Toutes basées sur le bénévolat, sans aucune rémunération, aucune, même au sein des clubs. Donc, c'est le but principal de la fédération.
Donc, vous êtes complémentaire de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Vous travaillez en partenariat ou en symbiose, ou alors il y a des épreuves, communes à chaque fédération?
Oui, il y a des épreuves communes à chaque fédération. On travaille en symbiose où on est complémentaire, entre autres, hein, mm-hmm. puisque nous ne faisons pas les mêmes choses que la FFPJP. Déjà, bon, les compétitions, ça reste des compétitions, mais chez nous, c'est encore une fois la seule chose qui a à gagner, même lors des championnats à Rambouillet, c'est le titre. Il n'y a pas d'autres récompenses que le titre,
d'accord,
l'honneur.
Le seul grand rendez-vous, c'est le championnat de France chaque année. Il y a quand même des championnats d'Europe, des championnats du monde dans les sports.
Oui, aussi. On a le CICT, l'année dernière, il y a eu lieu en Italie, à Rimini. Mais c'est, encore une fois, c'est la continuité. Ce ne sont que des bénévoles et volontaires qui sont là, qui sont présents. Ce ne sont pas des gens qui sont rémunérés.
Mm-hmm. Et alors donc, championnat de France, c'est pour un an. Hein, on porte le titre, on a un maillot de champion de France. Et il y a des hymnes. Hein, c'est vraiment quelque chose de très officiel. Hein.
Ah bah oui, c'est conçu dans cet état d'esprit. De toute façon, c'est un championnat de France, donc il faut qu'il y ait un hymne qui essaie de respecter. Mm-hmm. Pour l'instant, nous avons la chance par rapport au foot, c'est que c'est pas encore sifflé. Mais si voilà quoi, c'est le côté officieux. Et puis je pense que les gens qui gagnent, tout le monde un jour, il a quelque part dans sa tête, il met un point d'honneur à recevoir un hymne pour qui est mis pour lui quoi. C'est quelque chose d'important quand même.
Bien sûr. Donc ça veut dire que par catégorie, on peut avoir deux champions de France pour les sports trailistes et pour la Fédération française de pétanque.
Tout à fait.
Plusieurs sports.
Bah oui. Et les titres sont les mêmes. C'est pas d'évaluer vos titres par rapport à eux, ou c'est pas surévaluer eux par rapport à vous.
Bah, ce que je dirais quand même, c'est que on est moins nombreux que les licences, le nombre de licences au sein de la FFST est quand même moindre par rapport à celui de la FFPJP, bien entendu, qui reste quand même une fédération auquel on a référence. On peut pas non plus dire on est en FFST. Non, il y a quand même une référence qui existe. Ce qui fait aussi que, effectivement, Antoine en a parlé tout à l'heure. Bon, on a des rapports qui sont normaux. On va dire.
Avait d'ailleurs eu le président du comité départemental, M. Poupeau, qui était venu il y a à peu près un an et demi dans nos studios, nous parler effectivement de ce sport dans notre département. Mm-hmm. Oui, donc des rapports cordiaux.
Ça se passe bien. on n'est pas... Disons, alors, sans être toujours les uns chez les autres, mais ça
se passe bien. Peut appartenir aux deux fédérations? Est-ce qu'on peut concourir dans les deux, dans les deux fédérations, dans des compétitions des deux fédérations, Madame Pateau?
Oui, c'est
votre cas.
C'est notre cas, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, bon, on en vient à ce qu'on a vécu fin août sur Rambouillet, les championnats de France. Hein. On était ravis, on sortait d'une belle quinzaine de jeux qu'on avait fait vivre sur l'antenne nerveux, et hop, on enchaîne sur des championnats de France qui feront date. Comment on en arrive à organiser des championnats de France sur Rambouillet? Je suppose que d'abord, on est demandeur.
On est candidat.
On est candidat, c'est ça. Candidat. On est demandeur. Hein, voilà.
Après, c'est le comité départemental qui est représenté par Antoine qui soutient notre candidature en tant que club.
Alors, ça se passe comment? Donc, on fait un dossier, on va voir sur place carrément les infrastructures, les locaux, voir si on est capable d'accueillir ces championnats de France dans de très bonnes conditions.
Bien sûr, ça commence justement déjà par le club qui fait sa demande. Nous, dans l'ensemble des départements au sein de la fédération, on se réunit un peu avant pour savoir dans quel département les championnats de France s'effectuent. Donc, une fois qu'ils sont décidés dans quel département qui vont aller, au sein du département, on décide à quel club le donner. Entre autres, bon, il y a des clubs demandeurs, il y a des départements où il y a 3-4 clubs qui demandent, il y en a d'autres où il n'y en a qu'un seul, il y en a d'autres où c'est pas très chaud. Mais enfin, c'est comme ça, quoi. Donc, là, Rambouillet, quand Chantal m'avait dit, elle me dit, nous, on serait preneur, justement, pour la ville de Rambouillet, c'était quelque chose d'important. Tout de suite, j'ai donné mon accord personnellement, puis après, au nom du comité directeur, après des réunions, on a décidé de le faire à Rambouillet. Et de ce fait, je tenais encore à remercier encore une fois solennellement Chantal ici présente, parce qu'elle a fait quand même un travail de titan, entre autres, parce que si ça s'est bien passé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à elle et son équipe. Malgré qu'on avait des gens du département qui nous ont donné, parce que beaucoup de gens du département, ils nous donnent un coup de main, parce qu'un club, des fois, la structure du club, c'est pas assez forte pour pouvoir maintenir quelque chose comme ça. Pour mémoire, on était 70 bénévoles à œuvrer pendant 3 jours pour que la manifestation se passe à peu près correctement.
Ah, ça a été en tout cas une réussite, ça fera date dans l'histoire du sport rambolitain. Vous allez recommencer, Madame Pateau, vous allez repartir, refaire d'autres organisations de cette taille?
Pour l'instant, on est encore sur
la vague du succès. Sur la vague du succès, c'est
ça. Elle va se remettre.
Ouais, on nous demande maintenant d'organiser un national, un grand prix. C'est vrai que le site de l'hippodrome, la municipalité qu'on l'a eu.
Ça rentre en ligne de compte. Quand on parlait des infrastructures, il faut des lieux, des endroits pour pouvoir organiser. Alors ici, il y avait un hippodrome. Donc là, c'était pratiquement tout trouvé, quoi.
Disons que, je sais pas, encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, pas ici, mais j'en ai parlé beaucoup. Moi, ça m'avait effleuré l'esprit à un moment donné, parce que j'ai un de mes copains à moi, pour ne pas le nommer, Mouizouana, qui est propriétaire de chevaux. Et donc, il venait souvent à Rambouillet. Et puis j'avais parlé avec lui, puis en même temps, les championnats de France, ça m'est arrivé comme ça, et j'ai dit, tiens, ça serait bien qu'on le fasse là. Donc j'ai passé le mot un peu autour de moi, et puis c'est avec Chantal, j'ai dit, renseigne-toi si jamais on peut éventuellement se servir de l'infrastructure du machin.
L'hippodrome était libre.
Et j'ai même pas eu besoin de renseigner, puisque c'est le maire Gérard Larcher qui nous l'a proposé.
Parce que c'est vrai qu'au niveau parking, au niveau infrastructure, il n'y a pas de problème, quoi. Ça positionne tout. Les revêtements, c'est idéal pour lancer la boule.
Il y a tout ce qu'il faut. Quand vous disiez que nous, avec la FFPJP, ça prouve que nous, on peut être précurseur, lancer des idées au démarrage et ensuite concrétiser par des championnats, notamment, ou des organisations de manifestations importantes au sein de la FFPJP, parce qu'ils sont quelque part, ils sont beaucoup plus implantés que nous. On avait fait fester dans les Yvelines, je ne suis pas dans les Yvelines. J'ai 19 clubs qui pratiquent la pétanque. On fait PJP, ils sont une soixantaine. Vous voyez, et ils ont beaucoup plus de facilité que nous. Et on reste bien une sous-fédération, quoi, comme on disait.
Alors, ça se décide combien de temps avant? Un an, 2 ans avant l'organisation du championnat de France sur un lieu?
On a essayé pendant sur 2 ans.
Parce qu'il faut faire passer le dossier, il faut convaincre.
Bien sûr. On a essayé sur 2 ans, mais c'est très difficile parce que entre temps les gens ils changent au sein des clubs, au sein des infrastructures départementales, c'est pas toujours évident. Donc on essaie de maintenir pendant un an. Mmh. Et là, bah, comme c'est, cette année, c'est une année élective au niveau des comités départementaux, je pense dans toutes les instances sportives. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui sont en allant dire, bah, si on n'est pas réélu, on ne va pas imposer quelque chose qui est lourd à gérer, quoi. Mmh. Donc, c'est beaucoup moins évident que d'habitude.
Mmh. Les championnats de France 2009 auront lieu où, alors? Vous savez, vous connaissez déjà l'endroit, non? Vous connaissez déjà l'endroit, non?
À l'heure où on vous parle, non.
Non.
À l'heure où.
Ah bon, c'est l'incertitude, vous allez.
Pour l'instant, oui, parce que. Bon, alors le comité de l'Essonne a été sollicité. Le souci, c'est que.
Ça va rester au département, alors.
Le souci, c'est que. Non, mais le souci, justement, Antoine parlait des échéances de changements possibles au sein des comités départementaux, puisque les mandats sont de 4 ans et que ça se termine au plus tard le 15 février. Donc, il faut qu'avant le 15 février, tous les départements aient fait leurs assemblées générales avec les renouvellements de bureaux. Et on sait très bien que dans un comité départemental, il faut la locomotive et puis les wagons. Mmh. Et l'un et l'autre sont complémentaires et il faut trouver ça. Et dans l'Essonne, justement, il va peut-être. Enfin, je dirais pas, il y a des soucis. Bon, on a fait le concours des dirigeants hier, il y a un message qui est passé.
Ah, forcément, mais, oui, tiens, ça serait bien, c'est dans notre zone d'écoute.
Oui, tout à fait. Mais le souci, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure
autour, quoi.
Assise. Quoi. Et là, je peux pas dire non plus que c'est vraiment assuré pour l'année, pour la prochaine assemblée générale.
Oui.
Après, ma foi.
Oui, parce que la pétanque, la particularité de la pétanque, tout le monde n'a pas des boulodromes, donc vous jouez soit sur des hippodromes, soit sur des terrains de foot éventuellement.
Ouais, stabilisé.
Tout à fait. Oui. Mais bon, la pétanque, encore une fois, ça se pratique partout. Un terrain de un champ qui vient d'être labouré, on passe un coup de rouleau dessus, on peut jouer à la pétanque.
Oui, mais ça rentre aussi en ligne de compte, ça, ces revêtements pour pouvoir organiser des championnats. On peut pas le faire n'importe où.
Un championnat, non.
Mais une compétition, oui, un championnat, bon, il faut qu'il y ait la place déjà, donc important. Ouais. Et c'est vrai que si le terrain, de temps en temps, ça passe aussi. Maintenant, c'est beaucoup télévisé, ça passe. Ouais. On voit souvent que c'est sur des parkings, ils ajoutent un petit peu de sable gravillon.
Ah, d'accord, ils arrivent à faire
Voilà. Et pour mettre en place ce qu'on appelle nous des cadres, donc, et c'est de là on peut jouer maintenant un peu partout, puisqu'on se donne les moyens de fabriquer un terrain qui est à peu près jouable.
Et puis il y a une deuxième particularité aussi, c'est les infrastructures pour accueillir les concurrents et concurrentes ici. Il faut aussi des villes qui puissent le faire, parce que il faut se loger et être hébergé pendant 3-4 jours.
Ah bah, qui dit championnat
surtout
de France.
Surtout fin août, hein, il y a encore des vacances.
Qui dit championnat de France dit justement des gens qui viennent d'un peu toute la France.
Eh oui.
Donc bah, il faut que les hôtels ne soient pas trop loin. La restauration, comme nous à Rambouillet, on en revient, on a eu la chance de pouvoir la faire sur place.
Oui, à l'hippodrome en plus, avec le Garrigue.
Les gens, ils arrivaient le matin, ils déposaient leur véhicule et ils repartaient le soir. On a pu faire tout sur place, c'était quelque chose de bien. C'est pas le cas partout. Il y a des fois, il faut se déplacer, c'est un peu plus enquiquinant, l'organisation. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et il faut des infrastructures, justement, capables d'accueillir des gens qui puissent même manger le midi, au moins 300 personnes. Ça, c'est quelque chose d'important.
Certains ont logé loin. Bon, ils en ont profité pour aller voir la capitale, je le sais.
Non, ils ont tous été aux alentours de Rambouillet. Rambouillet, bon, il a une bonne structure hôtelière pour pouvoir accueillir les gens. Donc, il n'y a pas eu de gens qui se sont éloignés, morts pas ou autres. Ils sont restés aux alentours de Rambouillet. Bon, après, ils ont visité, c'est logique et normal.
Bien sûr. Oui. Alors, Madame Pateau, Chantal, maintenant, il y a eu des retombées pour votre club, un mois et demi après ces championnats. Est-ce que, finalement, ça a permis de parler encore davantage de pétanque, de votre club, et puis est-ce que ça a attiré de nouveaux pratiquants?
Fatalement. Quelques contacts.
Ouais.
Des personnes téléphonent pour prendre une licence pour l'an prochain.
Voilà.
Autrement, non.
Non. Vous êtes combien cette année? Vous êtes combien?
Nous, au sein du club, on est 84 licenciés.
84 licenciés, tout âge confondu?
Tout âge confondu.
C'est ça qui est assez remarquable dans votre sport, c'est que on l'a vu aussi au championnat de France. C'est pas qu'un sport de reconversion, on l'appelle. C'est pas qu'un deuxième sport qu'on découvre. C'est aussi, il y a des jeunes qui s'y lancent dès le début.
Bah, à partir de 7 ans, je pense, l'enfant, il commence à avoir la force de jeter les boules, donc on les prend. Il a été un moment où, à Montfort-la-Maurie, justement, on faisait des semaines de pétanque pour les enfants. Bon, on a arrêté faute de temps, parce qu'on avait quand même du travail à côté. Et puis, quand il faut prendre des jours de congé pour s'occuper de ça, on l'a fait pendant 4 ans. 4 ans d'affilée, pendant une semaine, on donnait des... On faisait de la découverte pour les enfants à Montfort-la-Maurie dans le cadre de les vacances scolaires. Voilà. Et les gens, ils mettaient les mm-hmm. enfants en garderie. Donc, et puis nous, on les tournait pendant une journée pour mm-hmm. les faire mm-hmm. des après-midi. Et on leur faisait découvrir la pétanque.
Et peut-être aussi les établissements scolaires. Ça peut être aussi au programme des cours d'éducation physique. Hein.
Oui. Oui, tout à fait. C'est bon, mais il y a une timidité quand même. Mais je reconnais. Mais enfin, moi, j'ai déjà fait avec des écoles de primaire. Mm-hmm. Mais il faut avoir les enfants petits.
Ah oui.
C'est un souci parce qu'il faut une attention bien particulière. Ouais. Et il m'est arrivé de faire ça pendant une heure ou deux heures un mercredi matin et de croiser après les parents dans la semaine qui a suivi ou après des vacances. Ouais. Hein, après les vacances, ils sont allés jouer à la pétanque, ils jouaient avec les enfants. Et ils venaient me voir en me disant « Vous êtes un peu chiant avec vos règles, vous, hein, parce que vous, ce que vous leur apprenez, nous, on n'a pas le droit de... quand on joue, c'est règles. Eh ben, et bon, ils sont assez réceptifs quand même là-dessus. Hein.
Combien vous êtes de clubs donc au comité départemental?
19 clubs dans le département des Yvelines.
Et en Yvelines
9.
9, d'accord, ok.
9 pétanques, hein. Il y a 2 clubs autres qui sont... 3 clubs autres, il y a de l'aïkido et il y a du hockey sur glace.
D'accord. Donc le prix d'une licence et d'une cotisation, c'est combien?
Ça varie entre 20 et 35 euros.
Ça, c'est à l'année?
Oui.
Après, il y a les droits d'engagement dans des compétitions.
Voilà. Pour ceux qui font les compétitions, oui, il y a un droit de compétition, 3 euros pour chaque
joueur.
Concours, pas joueur. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est pas très onéreux. Un jeu de pétanque, ça cherche à partir de 30 euros, pardon, juste à 200 euros. On a quelque chose de correct, donc ça vient vraiment pas cher.
Alors justement, les boules, on a un jeu de boules pour l'année ou on est obligé d'en avoir plusieurs parce que si on fait de la compétition...
Non, le même jeu de boules peut faire plusieurs années déjà, mm-hmm. selon la qualité qu'on achète, selon c'est comme un peu tout. Hein. Si vous achetez le must des boules et si vous jouez...
Ça coûte combien une bonne paire de boules
Il faut compter une centaine d'euros.
Une centaine d'euros, ouais. Dans des commerces très très spécialisés, hein.
Il vaut mieux.
C'est plus sûr. Oui.
Mais disons que dans les commerces spécialisés, on a ce qu'on veut.
On a ce qu'on désire.
Tandis qu'effectivement, on peut en trouver dans d'autres magasins, mais le souci, c'est qu'on n'a pas forcément le bon diamètre, on n'a pas forcément le bon poids,
Ce sont des boules de plage plutôt qu'on trouve.
Ça, non, voilà. On peut trouver aussi, mais il faut
jouer dans du sable.
Voilà. Ça a beaucoup changé, Félix, le matériel. La boule, elle a beaucoup changé aujourd'hui. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus.
Bah, ça dépend. Moi, j'ai encore des boules qui ont 30 ans.
Ouais.
Et de temps en temps, je les reprends. Mmh. Et puis, comme tout amateur de boules et de pétanque, de temps en temps, ça me reprend d'acheter une triplette, par exemple.
Ah, d'accord.
Parce que je la trouve meilleure que celle que j'avais il y a 30 ans. Mm-hmm. Mais ça ne m'empêche pas de reprendre celle que j'ai.
Les amours sont toujours là.
Oui. Alors, il y a peut-être aussi un petit côté fétichiste. Hein. On sait qu'en sport, on aime bien le côté fétichiste. Il y a peut-être une paire de boules qui a mieux réussi, qui a plus porté chance à un certain moment et qu'on veut garder. Quoi.
Bah oui, bah, par exemple.
On sort que dans les grandes occasions.
Comme je vous disais, j'ai des boules qui ont 30 ans. Mm-hmm. Et là, il y a une quinzaine d'années, j'ai acheté des boules à Henri Salvador.
Ah,
c'est
bien.
C'est lui qui est son usine qui les faisait. Uh-huh. Et là, à ce moment, je les ai repris, vous voyez. Donc, quand on aime ça...
Alors, les jeunes, on l'a dit, pratiquent ce sport. Hein. On a été étonnés. Les compétitions, elles se déroulent comment? Individuelles, par triplette, en double comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi un classement individuel, type un peu golf ou tennis, dans une saison?
Si. Ben, dans chaque département, je pense qu'il y a des classements individuels qui se font. Bon, nous, dans notre département, on a un classement par équipe et par catégorie. Mm-hmm. Donc, les jeunes, ils jouent principalement, comme ils sont très nombreux, en tête à tête. De temps en temps, on leur fait faire des compétitions doublettes, parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent à jouer ensemble. Ouais. Et sinon, les femmes, c'est pareil, on joue de tête à tête souvent, le plus fréquemment doublette. Ouais. Et de temps en temps, triplette, parce que bon, c'est plus difficile de réunir des gens en triplette. Mmh. Et en tête à tête, je pense qu'on tombe vite dans l'ennui.
Ouais.
Parce que bon, on n'a que l'adversaire, c'est pas, c'est, y a la convivialité
partagée.
Pas la même. Et pas la même que quand on est avec un partenaire. Où
enfin,
il
faut bien s'entendre avec ses partenaires aussi. Hein. Sinon,
c'est pour ça qu'on joue ensemble et on n'oblige personne à jouer avec quelqu'un d'autre. Et c'est les gens qui se mettent en couple pratiquement tout seuls, comme presque dans la vie. Après, ça marche, un laps de temps, ça marche.
Donc une saison, ça dure de quand à quand? Du mois de septembre au mois de juin? Ou ça dure pratiquement toute l'année?
À partir du mois de mars,
chez nous, jour, notre fédération. Au printemps, ouais.
Le 1er mars, le premier week-end de mars, juste à fin dernier week-end d'octobre. Mais maintenant, comme...
On peut jouer en indoor, en salle.
On joue en salle, oui, pas ici, en Île-de-France. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trop la chance d'avoir beaucoup de terrain couvert, mais il ne faut pas désespérer dans l'avenir. Quand il y aura des gens qui auront un peu plus de temps que nous actuellement, qui s'impliqueront un peu plus, peut-être, ça va venir. Sur moi, j'en ai parlé avec des élus, mais notamment M. Plancheneau, vice-président du Conseil Général. Ils sont pas très réticents, mais c'est vrai qu'il faut trouver des gens qui s'engagent avec eux à longue échéance pour pouvoir mettre en phase un tel projet. Parce que ça coûte de l'argent quand même.
Bien sûr. Donc, les compétitions, on s'y engage de son propre gré ou c'est le club qui vous inscrit
C'est complètement libre. Il n'y a aucune obligation, on va dire, sauf pour les championnats. Chacun y va une demi-heure avant, 10 minutes avant, il décide d'aller au bout.
Ah bon, on peut s'inscrire sur place. Il n'y a pas des droits d'engagement qu'on doit fournir une semaine ou 15 jours avant.
Pour certaines compétitions, on fait ça, dans le style championnat de France, championnats régionaux, départementaux, puisque c'est quand même une mise en place un peu plus importante. Et il y a une inscription par avance, mais sinon à la dernière minute, les gens ils arrivent, ils trouvent quelqu'un qu'ils connaissent qui est licencié dans la même société, hop, ils peuvent jouer à l'instant même.
D'accord. Et alors, on peut concourir en doublette et puis en simple en même temps. Je veux dire, on peut en parallèle faire un peu comme au tennis, qu'on s'engage sur le simple et puis en même temps, une fois qu'on a joué son match, on peut se retrouver 2 heures après en double.
Non, on n'est pas encore parti dans cette dans cette philosophie parce que bon, c'est vrai que encore une fois, même ceux qui organisent les concours, ce sont que des bénévoles et bien souvent au sein des clubs, c'est que 2 ou 3 personnes qui organisent tout. Donc c'est dur à gérer. Ça fait que c'est trop difficile à maintenir des choses comme ça. Au moins de prévoir déjà, de dire tel jour spécifiquement, mais là je pense que ça tombe soit au niveau départemental, soit au niveau régional, de faire des choses comme ça pour pouvoir dire on peut emmener plusieurs compétitions.
Mais un même week-end, par exemple, le samedi, on peut jouer en double ou en triplette, et puis en simple et en individuel le dimanche.
Tout à fait.
C'est possible, ça.
Oui, enfin, à condition que ce soit programmé sur le, sur le calendrier, les manifestations.
Donc, on l'a vu, les jeunes, naturellement, sont très nombreux dans ce sport, et parmi les jeunes, beaucoup de femmes. Ça, c'est un phénomène qui est quand même assez étonnant.
Oui, tout à fait.
Contrairement aux idées reçues.
Moi je connais assez bien les effectifs de l'Essonne aujourd'hui. Si on prend les effectifs de l'Essonne, c'est 23% de féminines sur la totalité. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, si les concours en FFST continuent de se dérouler comme ils se déroulent aujourd'hui, c'est parce que tous les samedis, tous les dimanches, il y a une participation des féminines qui est quand même élevée. Il n'est pas rare à moins de 10 équipes, il n'y a plus de concours féminins aujourd'hui. C'est toujours plus de 10 équipes. Et bien souvent, elles entraînent ce qui va bien avec, quoi. Elles entraînent les maris, les enfants. Voilà, quoi.
Et on l'a vu au championnat de France avec un club de Rungis très fort, qui a fait grosse impression lors des finales organisées fin août sur Rambouillet.
Ah oui, ça a été leur jour, on va dire. Ça leur a réussi à eux, au club de Rungis.
Le mental, il est indispensable, hyper important dans une compétition de pétanque. C'est souvent ce qui fait la différence.
Ah bien sûr, le mental c'est primordial puisque si au bout d'un moment vous savez la boule on jette une boule je sais pas c'est comme le foot le joueur de foot qui va pour tirer un pénalty puis qui tire en dehors du cadre c'est parce que la tête y est pas je pense que quelque part donc c'est la concentration si elle est là quand on jette le bras pour lancer une boule si on est
il faut pas trembler
faut garder allez parfois il y a un peu de désintoxication. Je veux dire, il y a un peu d'intox, pardon.
Bien sûr, ça arrive fréquemment.
De faire perdre les moyens à son adversaire. Hein.
Mais ça reste gentil quand même. Ouais, c'est des petits gestes, des petits trucs, mais de moins en moins, parce que bon, on est attentif, on veut que, encore une fois, que ça reste une compétition conviviale, et donc on essaye de mettre en place, bon, on a en place déjà une multitude d'arbitres qui sont là pour gérer.
Justement, parce
que sinon, sans arbitre, il faut, c'est le cas de dire, il faut un gendarme partout, mais pour chaque compétition, il y a des arbitres, donc ils sont là pour faire respecter l'ordre, entre guillemets. Hein.
Ouais. L'ordre sportif.
L'ordre sportif. Voilà. Et, non, mais c'est pour ça que je mettais les guillemets. Donc, de plus en plus, les gens, ils s'y plient facilement parce que, bon, ça sert à rien d'avoir des réprimades par l'arbitre devant les gens. Ça.
Il y en a qui contestent justement volontairement pour un peu désarçonner leurs adversaires ce côté intox.
Ah oui, complètement.
C'est souvent,
c'est surtout quand les gens ils sont un peu malmenés dans la partie. Puis
ouais, c'est ça.
Ils disent, bon, ils font
on casse le rythme,
temps.
Comme on dit en foot.
On casse le rythme. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Mm-hmm. C'est comme un peu dans toutes les manifestations sportives. Je pense qu'il y a un moment donné, quand ça va pas bien, on essaie de faire quelque chose pour que ça tourne. Il y en a qui jettent la raquette en l'air quand c'est le tennis. Au foot, ils arrêtent
de faire les changements de joueurs.
On n'expulse pas quand même. C'est déjà arrivé qu'on soit. On connaît plus des avertissements dans des matchs. Ça peut arriver qu'on prenne des avertissements, donc des points de pénalité.
Ah, pas des points de pénalité, mais des avertissements et des expulsions, oui.
Et ça, quelles conséquences l'avertissement dans un match?
Disons que l'avertissement, c'est déjà quelque part de mettre un peu la pression sur le joueur.
Oui.
En disant que le prochain encartade qu'il peut avoir, il va être exclu. Sinon, ça arrive qu'au niveau des boules, on enlève les boules. On prend des boules et on les enlève. Ça arrive aussi que la boule était mal jouée ou autre. Et hop, on l'enlève selon le tas, quoi. La catégorie de la faute qui est mise en phase. Donc, et juste à l'exclusion qu'on ne les voit plus.
Et physiquement, naturellement, il faut aussi une condition. Contrairement aux idées reçues, c'est un sport qui demande une grande condition physique. On est toujours debout, il faut parfois se lever à 5h du matin et finir les matchs à 20h, 21h. Ça nécessite une très grande condition.
Ah, c'est clair.
C'est beaucoup, beaucoup, encore, c'est du piétinement, on va dire.
Oui, oui, oui.
Mais ça fait quand même beaucoup de pas à faire. Dans chaque partie, il y a minimum une vingtaine de mènes. Donc une vingtaine de fois, trois jetés, ça fait, on joue entre 6 et 10 mètres, donc minimum c'est 6 mètres qu'on fait, et à chaque fois. Et quand on jette une boule, ça représente quand même une certaine distance à la fin de la journée.
Oui. Vos arbitres, ils sont formés, il y a des brevets, des diplômes d'arbitre? Ou ce sont essentiellement des bénévoles qui s'improvisent arbitres?
Non.
C'est vraiment
c'est structuré. Nous donnons des cours pour des volontaires et
comme
bénévoles.
Comme dans tous les sports, quoi.
Voilà, comme dans tous les sports. Et donc, on leur donne des cours, on leur fait passer un examen pour les valider en tant qu'arbitre. Et ils sont d'abord arbitres stagiaires, ensuite départementaux et régionaux. Ensuite, ils montent des échelons au fur et à mesure qu'ils sont arbitres. Parce que, c'est pareil, il faut aussi fixer ceux qui font ça en disant on peut pas tout de suite les mettre en haut du podium, mais il faut qu'ils gravissent les échelons comme tout le monde, quoi, à tous les niveaux.
Bon, il y en a, c'est comme tout, qui gravissent les échelons un peu vite. Il y en a d'autres qui stagnent un peu plus. Mais je dirais que par rapport à l'arbitrage, c'est quand même quelque chose de très, très pointu. Un arbitre n'a pas le droit de se tromper, quoi. En quelque sorte, et on le voit bien dans d'autres sports, ils sont souvent mis sur la brèche.
Ouais.
Et c'est vrai que ne peut pas être arbitre un dirigeant, par exemple. Il y a pas, on peut être dirigeant aujourd'hui. C'est différent. L'erreur est possible. Par contre, sur l'arbitre, l'erreur est.
Il peut revenir sur une décision. Il peut revenir sur une décision. Par exemple, il peut accorder un point, puis après estimer qu'il s'est trompé et donc il revient sur le point qu'il a accordé.
Généralement, jamais.
C'est très difficile parce que
généralement,
quand on jette une autre boule, ça peut changer, donc c'est pratiquement immédiat.
Tout à fait.
C'est un peu le pénalty au foot, quand on décide un pénalty est donné, il y a but, quoi. On n'a jamais vu un pénalty annulé.
Si tu prends le pénalty sur le football, par exemple, il y a plusieurs arbitres. Donc, il peut y avoir un deuxième arbitre
qui
intervient. Aujourd'hui, il y a l'assistant, on voit bien. Mais
c'est arrivé, hein, sur certains championnats.
Bien sûr. Ah ouais. Or, bien souvent, l'arbitre de pétanque, à part des manifestations comme Rambouillet, par exemple, ils sont quand même quatre. Donc, s'il y a vraiment une décision juste à prendre, on leur conseille toujours de se rassembler et puis de communiquer entre eux pour voir si la décision qui a été prise a été la bonne et éventuellement rectifier le tir s'il faut le rectifier.
Alors le public en pétanque, il est calme ou alors c'est un public qui est assez enthousiaste et exubérant parce que c'est un sport qui quand même réclame un certain calme, une certaine quiétude de la part du public.
Ah, bien sûr. Ça demande du calme, d'autant plus que les joueurs ils sont dans le rond pour lancer leur boule.
Ça aussi, ça peut être un peu d'intox de la part du public adverse, de faire un peu de bruit pour déstabiliser le
bon, ils sont le assez disciplinés quand même. Vous avez entendu, vous étiez là. Au moment où les joueurs jettent les boules, ils sont calmes, on entend.
J'étais admiratif devant les boules lancées, tant que c'était beau au niveau d'exploit. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est quand il y a un peu d'adresse, justement, à ce niveau-là. Mais comment dire, les gens sont respectueux parce qu'ils savent que bon, les trois quarts du temps, c'est aussi déjà des pratiquants du sport de pétanque qui sont là. Donc ils savent que quand on est au rond, qu'on est en train de jeter une boule, un bruit qui est un peu plus intensif que d'autres, ça peut perturber au moment qu'on jette. Et donc ils sont respectueux. Par contre, une fois que le geste il a été fait, on sait qu'on partout, ils applaudissent, ils disent bravo, ou les sifflets selon le moment.
Oh, très rare les sifflets quand même. C'est très rare les sifflets.
Non, j'ai bien spécifié.
Très rare. Et puis ça termine toujours dans la convivialité, hein. Quel que soit le résultat. Il y a très peu de fronde quand même à l'arrivée. Il y en a qui quittent le lieu, qui disent non, on ne veut pas partager le.
Non, la troisième mi-temps. Ils restent, bon, ils partent, tout le monde part au bout d'un moment parce que les choses se terminent plus ou moins tard, mais sinon, non, chaque fois. La convivialité, encore une fois, elle est basée, c'est d'aller boire un coup à la fin.
Ça fait partie
des choses intégrantes.
Du rituel pétanque, ouais.
Et pas forcément que de l'alcool, hein, parce que on n'en voit pas beaucoup sur nos terrains, mais bon, on va boire un coup de convivialité. Les adversaires, notamment chaque organisation, club qui organise les compétitions, ne serait-ce qu'aux finalistes, leur offre le verre d'amitié. C'est quelque chose de courant, d'important. Quoi.
Est-ce qu'il peut y avoir des reports au niveau de la météo? Est-ce que ça arrive que des compétitions peuvent être reportées?
À ma connaissance,
on joue sous la pluie, on peut jouer frontalement. Oui. Bon, c'est pas arrivé, mais c'est pas l'époque. Mais on peut jouer sous la neige, sauf peut-être l'orage. Faut peut-être faire attention.
Même l'orage, on risque rien. Les boules,
si les boules
on les a en main. Ils sont pas en contact avec le sol, ça attire pas. C'est quand il y a une continuité entre pour l'orage. Il y a pas de risque de prendre un coup d'orage plus que.
Donc il n'y a jamais de report, hein. Même quand il y a un très fort vent, quand il y a une tempête.
On décale un petit peu par rapport aux gens.
Oui.
Il pleut beaucoup. Bon,
on peut temporiser un peu,
attendre une heure, deux heures s'il le faut, mais.
Oui, l'an dernier, sur un championnat, on avait attendu une bonne heure. C'était Alice, mais c'était un championnat d'Essonne, je crois. Et on avait attendu une bonne heure. Mais il faut dire que le dimanche. Ouais.
Oui, c'est arrivé à Rambouillet.
Voilà.
Ah bon,
voilà.
C'était arrivé, donc obligé d'attendre et puis de...
Surtout s'interroger.
Et qui décide de la reprise? C'est le président, la présidente, l'organisateur, l'arbitre?
Mais là, en l'occurrence, c'était Antoine, puisque c'était dans les Yvelines, et notamment sur Rambouillet.
Tout à fait,
qui a fait patienter, parce que bon, c'est délicat, les gens s'inscrivent à l'avance, il faut retrouver d'autres dates.
Oui, non, c'est sûr.
C'est pas évident que le club organisateur ce jour-là soit libre à une autre date. Enfin, bon, c'est tout.
Et ce jour-là, nous avions eu la chance, c'est que bon, ils étaient encore une fois, ils faisaient à manger sur place, puisqu'il y avait des gens qui venaient de toute l'île de Sens, et ils étaient prêts pour faire manger les gens, et ils tombaient des cornes, de 9h juste à 11h, juste à midi, il a tombé des cornes. Donc, à 11h, j'ai décidé, comme on pouvait pas jouer, j'ai dit, on va aller manger, et après on verra. Pour que justement ceux qui avaient organisé, parce que les gens commençaient à s'impatienter de ne pas jouer, j'ai dit bon, à 11h on est parti manger, puis quand on est revenu il a fait beau, on a pu faire la compétition tranquille, peinard et tout s'est passé correctement.
Voilà, allez, on va pointer avec un peu de musique là. Et puis ensuite, eh bien, on va finir cette émission. Vous avez vu, on a eu beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter. On a été très bavard. Allez, un peu de musique et puis ensuite, on finira cette émission consacrée ce matin à la pétanque. Alors, madame et messieurs, est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans la pétanque? Quand on en vit à haut niveau, on peut bien en vivre. On a souvent eu Philippe Quintet à ce micro, qui lui en vit bien. Est-ce que c'est le cas pour la plupart des joueurs de pétanque et joueurs de pétanque de haut niveau?
Au niveau, je sais pas. Enfin, ils sont pas salariés. Ils sont pas. Il y a un Club France maintenant, je crois, au niveau de la Fédération des Légataires. Mais bon, ils ont, à mon avis, des employeurs qui sont compréhensifs. Je pense plutôt.
D'accord. Et peut-être aussi les partenaires qui payent aussi les boulistes. Voilà. Enfin, les partenaires, les fabricants de boules,
entre autres. Oui.
Oui, mais tout cela, ça reste limité à quelques, on va dire une cinquantaine de personnes au sein de la France. Ça va pas chercher bien loin. Tous les autres. Malheureusement, il faut qu'ils travaillent s'ils veulent survivre. sinon, c'est pas. On arrive à gagner quelques argent comme ça si on gagne quelques compétitions au niveau de FPJP. Mais nous, notre force dans notre fédération, justement, elle est du fait qu'il n'y a pas d'argent en jeu.
Il
n'y
a pas d'argent du tout.
Du tout. La seule chose qu'on fait, c'est de remettre les muscles. Les gens, ils s'engagent pour pouvoir justement donner un peu d'attrait au jeu. Entre autres, ça leur sert pour boire un coup entre amis après, mais on leur donne que l'argent qu'ils versent, puisqu'on ne garde pas pour nous, et c'est pour cadrer un peu plus les choses. Quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas chez nous, dans notre fédération, il n'y a vraiment pas d'argent à gagner.
Alors, à quand la pétanque, sport olympique? Parce qu'on aurait encore plus de médailles, on marche bien en pétanque, et puis c'est un sport qui vraiment s'inscrit dans l'esprit olympique. Quoi.
Bon, disons que c'est pas forcément à nous qu'il faut poser la question.
Oui.
Mais ce que je veux dire quand même, c'est d'abord, c'est surtout la Fédération des Légataires qui est concernée par ce souci-là. Il se trouve quand même qu'il y a plusieurs sports boules. En France, c'est que la pétanque, justement, à la limite, le sport olympique serait plus pour le jeu provençal, plutôt que la pétanque. Enfin, c'est ce que je me suis laissé dire il y a encore pas très longtemps, à Rambouillet, justement, puisque j'avais rencontré le rédacteur en chef du journal Boulisme, qui était présent sur le site, Jean-Pierre Jacquet. Et c'est vrai que le jeu provençal correspond plus à une pratique sportive visuelle. On va appeler ça comme ça, mais bon, après c'est vrai que par rapport au nombre de licenciés au niveau des sportifs français, la pétanque, voilà quoi.
Très bien, merci en tout cas d'être donc venu nous parler un peu mieux de ce sport. Monsieur Magrino, 30 secondes, il y a beaucoup de jeunes qui font ce sport, il y a des anciens aussi, donc où faut-il qu'ils s'adressent s'ils veulent venir étoffer et donc accéder à un de vos clubs?
Déjà, je pense qu'on a tous les clubs de notre toutes les communes, maintenant, il y a le forum des associations, et là, il y a les informations pour pouvoir se diriger vers le club qui existe au sein de chaque commune.
D'accord.
Donc, voilà.
Très bien, merci à toutes et à tous. On vous laisse maintenant avec notre ami Christian qui va nous envoyer le générique, et puis on se retrouve dans quelques secondes pour Tribune Foot, la deuxième partie donc de cette matinée sportive. On y va.